Neuvième couplet. Eddie tient sa langue. 1. Le père Callahan avait rendu une brève visite au bureau de poste d'East Stoneham, presque 2 semaines avant la fusillade, à la boutique de Chip McAvoy. Et c'est là que le prêtre de la paroisse de Jérusalem Slot avait griffonné son petit mot à la hâte. « Tower, je suis un ami du type qui vous a tiré d'affaire avec Andolini. Où que vous soyez, il faut que vous en partiez immédiatement. Trouvez une grange, un refuge abandonné ou même un cabanon s'il le faut. Vous n'y serez pas bien installé, mais rappelez-vous que c'est ça ou être mort. Et je pèse mes mots. Laissez des lumières allumées là où vous vous trouvez actuellement et ne déplacez pas votre voiture, qu'elle reste au garage ou dans l'allée. Laissez un mot avec des indications sur le lieu où vous êtes. Sous le tapis de sol de votre voiture, côté conducteur, ou sous la marche du porche à l'arrière de la maison. Nous vous contacterons. Rappelez-vous que nous sommes les seuls à pouvoir vous soulager du fardeau que vous portez. Mais si vous voulez notre aide, il vous faut nous aider aussi. Callahan, de la lignée d'Eld. Et que ce soit votre dernier passage par la poste, comment peut-on être aussi stupide ? Callahan avait risqué sa vie pour déposer ce mot, et Eddie, sous l'emprise maléfique de la 13e noire, avait bien failli perdre la sienne. Et quel était le profit net de ces risques et de ces tentatives ? Eh bien, Calvin Tower était allé gambader joyeusement dans la campagne du Maine à la recherche de livres rares ou épuisés. Tout en suivant John Cullum sur la route 5, avec Roland assis silencieusement à ses côtés, puis en tournant dans Dimity Road, Eddie sentit que, nerveusement, il n'était pas loin de la zone de danger. « Il va falloir que je me mette les mains dans les poches et que je tienne ma langue », se dit-il. Mais dans ce cas précis, il n'était même pas certain que les bonnes vieilles recettes fonctionneraient. 2. Environ 3 kilomètres après avoir quitté la route 5, la Ford F-150 de Cullum prit un virage à droite, dans Dimity Road, indiqué par 2 panneaux accrochés sur un poteau rouillé. Celui du haut disait « Rocket Erdy ». L'autre, plus rouillé encore, faisait miroiter des « Cabane Borlac, location week-end, mois ou saison ». Rocket Road était à peine plus petit qu'un sentier serpentant entre les arbres, et Eddie colla au train de Cullum pour éviter le panache de poussière que laissait derrière lui le vieux camion de leur nouvel ami. La Cartomobile était également un modèle Ford, une 3 portes anonyme qu'Eddie n'aurait su nommer sans vérifier l'inscription chromée à l'arrière ou le manuel du conducteur. Mais conduire de nouveau lui procurait un plaisir presque mystique, avec non pas un seul cheval sous les fesses, mais plusieurs centaines prêts à bondir au moindre frémissement de son pied droit. C'était agréable aussi d'entendre le brouhaha des sirènes s'évanouir au fur et à mesure. L'ombre des frondaisons les engloutissait. Le parfum des pins et de la sève était à la fois doux et vif. « Charmante région, » fit remarquer le pistolero. « On rêverait de venir s'y installer. » Ce fut son seul commentaire. Le camion de Cullum croisa des allées numérotées. Sous chaque numéro apparaissait une petite légende. Location Jaffords. Eddie songea à signaler à Roland qu'ils avaient connu un Jaffords à la Cala, qu'il l'avait même très bien connu. Mais il se ravisa. C'était enfoncer une porte ouverte. Ils dépassèrent les numéros 15, 16 et 17. Cullum marqua un temps d'arrêt devant le 18, puis, après réflexion, passa la main par la vitre de son camion et leur fit signe de continuer. Eddie avait déjà enclenché la vitesse, sachant pertinemment que ce n'était pas le numéro 18 qui les intéressait. Cullum s'engagea dans l'allée suivante. Eddie le suivit, et les pneus de la berline firent chuchoter l'épais tapis d'aiguilles de pin. Des éclats bleus se mirent à apparaître entre les arbres, mais quand ils atteignirent le bungalow numéro 19 avec sa vue sur le lac, Eddie constata qu'il s'agissait d'un vrai plan d'eau, contrairement à l'étang de Kaywadin. Probablement pas plus grand qu'un terrain de football. La cabane elle-même ne devait pas avoir plus de 2 pièces. Elle comprenait aussi une véranda couverte, qui donnait sur l'étang, avec 2 rocking chairs fatiguées mais à l'air confortable. Un tuyau en zinc sortait du toit. Il n'y avait ni garage, ni voiture garée devant la cabane, même si Eddie croyait deviner où elle était passée. Mais avec le tapis d'aiguilles de pin, c'était difficile à dire. Callum coupa le moteur du camion. Eddie l'imita. On n'entendait plus à présent que le clapotis de l'eau sur les rochers, le soupir de la brise à travers les pins et le gazouillis léger des oiseaux. En tournant la tête vers la droite, Eddie vit le pistolero assis, ses longs doigts de génie croisés paisiblement sur ses genoux.
« Ça te paraît comment ?»
demanda Eddie. « Calme. À la mode de la Cala. Calme. »«
Y a quelqu'un ?»«
Je dirais que oui. »«
Du danger ?»«
Oui, là. Juste à côté de moi. » Eddie le fixa en fronçant les sourcils. « Toi, Eddie, tu veux le tuer, pas vrai ?» Au bout d'un moment, Eddie dut bien admettre qu'il disait vrai. Cette partie de sa nature, à découvert, dans sa simplicité et sa sauvagerie, le mettait parfois mal à l'aise, mais il ne pouvait la renier. Et après tout, qui l'avait réveillé et aiguisé à ce point ? Roland hocha la tête.
Un jour, après des années d'errance dans le désert, solitaire comme tout ermite digne de ce nom, j'ai vu entrer dans ma vie un jeune homme pleurnicheur et égoïste, dont l'unique ambition était de continuer à consommer une drogue qui le faisait renifler et somnoler toute la journée. Une sorte de rustre prétentieux, fort en gueule, qui n'avait pas grand-chose pour lui.
« Mais beau gosse !» intervint Eddie. « N'oublie pas ça, ce gars, c'était une véritable sex-machine !»
Roland le considéra sans sourire.
« Si j'ai réussi à ne pas te tuer à cette époque-là, Eddie de New York, tu dois pouvoir réussir à ne pas tuer Calvin Tower aujourd'hui. »
Et sur ces mots, Roland ouvrit la portière et sortit.
« Eh bien, c'est toi qui le dis ?»
répondit le jeune homme à l'intérieur de la voiture de Callum avant de sortir à son tour. 3. Callum était toujours au volant de son camion lorsque Roland puis Eddie le rejoignirent.
« Ça m'a l'air vide, mais j'ai vu de la lumière dans la cuisine.
« fit Eddie.
« John Jay, laisse-moi deviner. Tu as une autre question. La seule personne que je connaisse qui en pose plus que toi, c'est mon petit-neveu, Aidan. Il vient d'avoir 3 ans. Vas-y, pose-la. »
« Pourriez-vous localiser précisément le centre de l'activité des entrants dans le coin ces dernières années ?» Eddie ne savait absolument pas pourquoi il posait cette question, mais tout à coup, ça lui paraissait vital.
Callum réfléchit, puis répondit.
« C'est le chemin du dos de la tortue à Lovell. »«
Vous avez l'air bien sûr de vous. »«
Pour sûr. »« Je t'ai parlé de cet ami Donnie Russert, ça te revient ?»« Le prof d'histoire à Vandy. »
Eddie acquiesça.
« Eh bien, après avoir rencontré un de ces types en personne, il s'est intéressé au phénomène. Il a écrit plusieurs articles là-dessus, mais il disait qu'aucun magazine digne de ce nom ne les publierait, même très bien documenté. Il disait qu'écrire au sujet des entrants dans l'ouest du Maine lui avait appris une vérité qu'il ne s'attendait pas à découvrir à son âge. Qu'il y a des choses que les gens ne veulent pas croire, même si on leur en apporte la preuve. Il citait ce poète grec qui dit « Le pilier de la vérité a un trou en son milieu ». Bref, il avait établi une carte de la zone entourant les sept villes, et il l'avait affichée sur le mur de son bureau. Stoneham, East Stoneham, Waterford, Lovell, Sweden, Freiburg et East Freiburg, avec des épingles plantées là où des entrants avaient été signalés, tu vois ?
Je vois fort bien, grand merci,
confirma Heidi. Et je dois dire que... Ouais, le chemin du dos de la tortue était le centre. Faut dire, il y avait 6 ou 8 épingles, et ce bout de patelin doit pas faire beaucoup plus de 3 kilomètres. Ça fait une boucle qui descend de la route 7, le long du lac Kezar, et puis elle remonte vers la route 7.
Roland observait la maison. Il se tourna vers la gauche, marqua un temps d'arrêt et porta la main gauche sur la crosse en bois de santal de son pistolet. John, c'était une heureuse rencontre que la nôtre. Mais il est temps pour vous de déguerpir d'ici.
Pour sûr? Vous êtes certain?
Roland hocha la tête. Les hommes qui sont venus ici sont des idiots. Ça sent encore l'idiot. C'est entre autres à ça que je sais qu'ils sont encore là. Vous n'êtes pas ce genre de personne.
John Callum esquissa un léger sourire. J'espère bien que non, mais je dois vous remercier pour le compliment. Puis il s'interrompit et gratta sa tête grise. Si c'est bien un compliment.
Ne reprenez pas la route principale et commencez par vous dire que je ne pensais pas ce que je viens de vous dire. Mieux. « Dites-vous que nous ne sommes jamais venus ici, que nous n'étions qu'un rêve. Ne retournez pas chez vous, pas même pour prendre une chemise de rechange. Vous n'y êtes plus en sécurité. Allez ailleurs, à au moins 3 regards vers l'horizon. »
Callum ferma un œil et parut calculer mentalement. « Dans les années 1950, j'ai passé 10 ans comme gardien de la prison d'État du Maine, 10 années malheureuses. Mais là-bas, j'ai rencontré un type fabuleux qui s'appelait... »
Roland secoua la tête et posa sur ses lèvres les 2 doigts qui lui restaient à la main droite.
Callum hocha la tête. « Eh bien, on dirait que j'ai oublié son nom. » Mais je sais qu'il vit dans le Vermont, et je vais finir par m'en souvenir. Et aussi de là où il habite, dès que j'aurai franchi la frontière de l'État du New Hampshire.
Quelque chose dans son discours frappa Eddie. Quelque chose de faux. Mais il n'aurait pas su dire quoi exactement. Il finit par se dire qu'il avait juste une petite poussée de paranoïa. John Cullum était un type carré, pas vrai ?
« Bon vent, » dit-il en attrapant la main du vieil homme. « Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. »« Pareil pour vous, les gars, » répondit Callum avant de serrer la main de Roland.
Il retint un peu la main à 3 doigts du pistolero dans la sienne.
« Est-ce que c'est Dieu qui m'a sauvé la vie, là-bas, d'après vous, quand les balles ont commencé à voler ?»«
Oui, là, » répondit Roland. « Si vous voulez. Puisse-t-il vous accompagner maintenant ?»«
Et pour ma vieille Ford ?»« Ou bien ici, ou bien dans le coin ?» fit Eddie. « Vous la retrouverez, ou quelqu'un la retrouvera, ne vous inquiétez pas. »
Callum eut un grand sourire.
« C'est à peu près ce que j'allais vous dire moi-même. »«
Vaya con Dios !» conclut Eddie.
Callum sourit de nouveau. J'en ai autant à votre service à tous les deux, fiston. Faites bien attention à ces entrants. Certains ne sont pas très sympas. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Callum mit son camion en route et partit. Roland le regarda s'éloigner et dit « Dantet ».
Eddie acquiesça. « Dantet, petit sauveur.
Ça résumait bien qui était John Cullum, qui à présent avait quitté leur vie, tout comme les anciens de River Crossing. Car il avait bel et bien disparu, n'est-ce pas? Pourtant, il y avait quelque chose dans sa façon de parler de son ami du Vermont. De la paranoïa. De la simple paranoïa. Eddie se sortit ça de la tête.